Matin Première.
Et à 8h46, Élodie de Sélis, doit-on encore présenter votre invité ce matin ?
Je ne sais pas. Car chacune de ces sorties littéraires est un événement, mais on est poli quand même, donc on va présenter Joël Dicker. On va même lui dire bonjour, bonjour Joël Dicker.
Bonjour Joël Dicker.
Alors souvent, on vous présente avec des chiffres. Alors là, on pourrait dire 8 et 15. 8, c'est le nombre de romans que vous avez publiés. 15, ce sont des millions. 15 millions d'exemplaires vendus. On est peut-être même à 16, hein, le temps que je parle. Et 8 et 15, ça fait aussi partie des âges qui pourraient être touchés par votre dernier roman, La très catastrophique visite du zoo. C'est une enquête quand même, parce que c'est Joël Dicker. Mais pour la première fois, elle est destinée à toute la famille, dans une visée plus grande, de ramener les jeunes et les moins jeunes à la lecture. Vaste chantier. Alors on peut se dire, au départ, qu'en fait, vous êtes Joël Dicker, donc vous n'avez peut-être plus rien à prouver. Et donc, vous, en termes de vente de livres, en termes de succès, vous avez fondé votre propre maison d'édition, Rosie & Wolf. Et on se dit que peut-être vous êtes dit, soit j'ai besoin d'un nouveau challenge, soit j'ai besoin que tout ça fasse peut-être sens et de me donner une vraie mission. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Heureusement, vous imaginez si les gens se disaient, bon, ça va, j'ai fait ma petite... carrière, j'ai vendu mes quelques livres, je vais m'arrêter maintenant.
Vous pourriez.
Non, je crois qu'au contraire, c'est une idée qui est partie justement de cette conviction que j'ai, d'abord de l'importance de lire, conviction aussi que tout le monde aime lire, tout le monde ne le sait pas encore, mais tout le monde aime lire, parce que j'ai vu en librairie, ça fait des années que je vois en librairie des gens qui viennent me trouver en disant « mais moi je lisais pas et maintenant je lis votre livre et ça m'a donné envie de lire d'autres livres ». Et donc je me suis rendu compte que parfois une littérature de plaisir... qui n'est pas un gros mot, était un moyen de rentrer dans la lecture. Et j'ai eu envie de proposer un livre qu'on puisse se passer, que mes lecteurs qui ont lu mes livres puissent lire avec plaisir, mais aussi leurs enfants, leurs parents, des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent pas encore, et qu'on puisse rappeler aussi que la littérature, c'est un moment de partage.
Un moment de partage, mais c'est vrai que c'est là qu'est peut-être la contradiction, c'est qu'on s'est tous retrouvés en famille devant un match de foot ou d'autres sports, devant un film, mais la lecture c'est plutôt un exercice solitaire. Donc comment lire en famille et en quoi ça pourrait devenir un moment de partage, et puis aussi en quoi ça peut être différent de quelque chose qu'on peut regarder à la télé ou au cinéma.
Mais c'est comme un film, comme un bon film qu'on regarde ensemble avec les parents, les grands-parents, les enfants, qui est un exercice, au fond, un film, c'est solitaire aussi, parce qu'on est face à l'écran, en principe, on ne se parle pas, on n'interagit pas, parce que ça nous empêche de suivre ce qui se passe. Et pour moi, un livre, c'est exactement pareil. Ce qui se passe, ce n'est pas tant le moment d'être ensemble dans le moment où on vit l'œuvre, que ce soit un film ou un livre, c'est ce qui se passe après. Échanger, parler. Et quand on lit un livre, c'est, au fond, c'est très intime, parce qu'on a vibré, on a vécu, on a imaginé selon notre imaginaire à nous. Et de pouvoir en parler et échanger, c'est le début d'un vrai échange, de parler de choses au fond très intimes qui nous permettent de nous rappeler qu'on doit, on est censé, on doit être capable de se parler de choses très importantes, très intimes, on doit être capable de diverger, de ne pas être d'accord et de vivre ensemble quand même.
Donc c'est plutôt la communication, et dans ce cas-ci peut-être une communication adulte-enfant, et ça, on en vient au thème de ce dernier livre, La très catastrophique visite du zoo, et à l'histoire qui est celle d'une jeune narratrice qui s'appelle Joséphine et qui appartient à une petite école dite spéciale. Alors un jour cette école est inondée suite au bouchage des lavabos avec la pâte à modeler, mais qui est le coupable, l'inondateur, comme l'appellent Joséphine et ses amis Otto, Giovanni, Yoshi, Warty. Alors ils décident de le trouver, car les adultes semblent ne pas vraiment bien faire leur travail, mais de sortie en centre commercial, en réunion de parents, de Christmas party, en spectacle d'école, on en arrive à une très catastrophique visite de zoo, mais surtout à des interrogations sur notamment la différence et le sens de la démocratie. Alors ces enfants, alors on dit qu'ils appartiennent à une école spéciale, on a plutôt l'impression que ce sont des enfants tout à fait, on va dire, normaux entre mille guillemets, parce que ce sont des enfants, c'est-à-dire ils posent des questions, ils ont zéro filtre, et ils ne s'embarrassent pas de la gêne que nous, on pourrait avoir, de la pudeur. Ils sont inspirés d'enfants réels, ces enfants-là. Je sais que les vôtres, ils sont peut-être un peu petits.
Ils sont un peu petits, les miens, oui. Ils sont inspirés d'enfants, de tous les enfants. Alors, vous avez raison et vous avez tout dit. C'est un livre dans lequel les adultes font tout mal. Et au fond, les catastrophes en catastrophe sont les adultes qui ne se tiennent jamais bien, qui prennent des décisions toujours à moitié pensées. Et on a ces enfants qui sont les gardiens un peu de la dignité et qui font que ça se passe bien. Ces enfants dits spéciaux, par rapport aux enfants de l'école voisine, qui sont des enfants dits normaux, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont de spéciaux ou les autres de pas spéciaux. Qu'est-ce que la normalité ? Je crois que surtout, c'était l'idée de montrer une différence, parce qu'évidemment, les enfants entre eux, d'ailleurs, quand ça commence, ils sont entre eux, ils se reconnaissent comme des enfants et sans se demander s'ils sont spéciaux ou pas. Et puis ceux qui vont mettre le pied là-dedans, c'est les adultes, évidemment. Et les parents des enfants dits normaux vont commencer à taper un scandale en disant « mais ces enfants dits spéciaux vont contaminer nos enfants normaux, etc. » Et ça, c'est la différence. On est forcément différent de l'autre, même avec nos enfants, avec nos parents, avec nos plus proches, avec notre mari, notre femme, on est forcément différent. Il faut faire que ça fonctionne. C'est ça, cet enjeu.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Joël Dicker. Les adultes qui font tout mal, est-ce que ça résonne quand même un petit peu avec l'actualité pour le moment ou bien c'est un hasard total
Ça résonne avec le monde en général. Vous savez, je ne trouve pas qu'on se tienne spécialement plus mal maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans.
On a toujours été nuls.
Si, mais c'est l'idée. C'est l'idée de se dire qu'on n'arrive pas non plus à se projeter très bien. Quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement de notre monde... c'est pas que tout d'un coup on se tient mal, c'est que ça fait des années au fond et des années qu'on a été incapable de voir les enjeux, de se construire. Et un des enjeux du livre, justement, c'est la responsabilité. Et on a toute une partie sur la démocratie, avec ce rappel du directeur et des enfants, surtout de dire, mais la démocratie, c'est la responsabilité de chacun.
Oui, justement, sur la question de la différence et de la démocratie qui sont au cœur de ce livre, vous ne saviez peut-être pas en l'écrivant que ça deviendra un objet révolutionnaire en 2025, un brûlot presque. Ce qui est particulier avec, j'allais dire, ces enfants spéciaux, mais en fait avec les enfants en général, c'est qu'ils prennent au sérieux tout ce que disent les adultes. Ils prennent tout au pied de la lettre. Et donc, le langage des adultes, ce que nous on emploie d'habitude, la langue de bois, les approximations, les contradictions, en fait, avec les enfants, ça ne marche jamais. Ça ne marche pas du tout. Mmh. Eux, ils prennent tout pour argent comptant.
Mais oui, mais c'est le rappel aussi, parce que c'est un livre pour tout le monde, et il y a deux niveaux de lecture. Je ne dis pas juste comme ça, parce que c'est vraiment, il y a deux niveaux de lecture. Il y a les adultes et il y a les enfants. Et les enfants, ils se retrouveront dans un plaisir de lire, dans l'enquête, ils s'identifieront évidemment à ces enfants, mais les adultes auront une lecture évidemment beaucoup plus complexe, parce qu'ils se retrouveront dans les adultes et dans tout ce que les adultes font parfois de mal, mais pas de mal volontairement, c'est-à-dire, vous l'avez dit, les approximations, le manque de courage, la non-envie de se responsabiliser, qui résonne de façon très forte dans les enfants. Et c'est une façon aussi de rappeler quelque chose qui peut paraître banal, voire cru, de dire l'importance des enfants, qui paraît quelque chose de tellement évident, mais qui, au fond, tellement, je trouve aujourd'hui, tellement peu pris en compte. On a quand même, chez ces enfants qui vont passer à l'école la majeure partie de leur vie, c'est-à-dire que les enfants vont aller à l'école, ils vont passer plus de temps avec leurs profs, ils vont passer plus de temps dans le cadre scolaire qu'avec leurs parents, qu'avec leurs frères et sœurs. Et de se dire l'importance de cet endroit et l'impact que ça va avoir sur le fonctionnement de notre monde plus tard.
Et en particulier dans cette histoire, l'importance de bien leur parler. Parce qu'on voit qu'il y a une forme, alors d'abord de condescendance, on va dire, par rapport à ces enfants qui sont particuliers, mais même des adultes par rapport aux enfants, et la façon que les adultes ont de leur parler, d'utiliser les bons mots. Alors il y a toute une histoire avec des gros mots, forcément, ça fait toujours rire les enfants et ça les attire, mais la façon de leur dire la vérité, en fait, tout simplement, et d'utiliser un bon langage. Et ça, on imagine que pour un écrivain, le choix des mots aussi...
C'est très
important. Ça vous
parlait. Il faut être très clair avec les enfants. Il faut être très clair avec nous-mêmes aussi. Je crois que quand on est clair avec les enfants, on est clair avec nous. Et c'est un moment, je trouve, qui est très important, parce qu'on est dans un monde où les enfants eux-mêmes sont très exposés à toute une sorte d'imaginaire, l'imaginaire des adultes, c'est-à-dire ce que leurs parents leur racontent, ce que leurs profs leur racontent, ce que leurs copains. Mais jusque-là, tout va bien à peu près. Et puis après, il y a tout le monde des réseaux sociaux. Et Internet. Et toutes ces histoires qui leur arrivent aux oreilles, et avec la difficulté, voire l'impossibilité, parce que même pour nous, les adultes, c'est impossible pour les enfants de trier le vrai et le faux, et de savoir comment gérer tout ça. Et de savoir, au fond, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut construire nos enfants, construire cette génération qui vient, qui est inondée par Internet et par Instagram, et par des informations souvent plus fausses que vraies, d'être capable de comprendre ce qui est vrai, de comprendre ce qui est faux, d'avoir les outils pour se construire lui, pour se faire une opinion, pour ne pas être manipulé. Parce que c'est ça, le vrai problème des fake news, c'est pas tant de répandre une information fausse, qui est déjà pas brillant, mais c'est surtout qu'on est dans la manipulation de l'autre. Et être capable d'apprendre à nos enfants à se construire eux-mêmes, à s'indépendantiser par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, mais aussi par rapport à l'information qu'on leur donne, de pas être manipulé, c'est un enjeu, je crois, en 2025, qui est essentiel. Mmh.
C'est l'enjeu du moment.
Ça, on peut dire ça. Il y a pas mal d'humour, hein, notamment pas que dans les rapports adultes-enfants, mais aussi dans les discussions entre enfants. Je sais que dans une autre émission, on vous a parlé de Roald Dahl pour tout cet univers d'enfants. Moi, je croyais qu'il y avait plutôt un côté le petit Nicolas de René Goscinny avec, on se souvient, les illustrations de Sempé. Et toutes les discussions super importantes qu'on peut avoir dans la cour de récré et qui prennent des proportions et des dialogues absolument savoureux. Et c'est vrai qu'on découvre, il y avait déjà de l'humour dans vos précédents romans, mais on a l'impression ici, Joël Dicker, que vous êtes lâché particulièrement.
Mais quand j'y pense, que j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup ri. C'est pas facile de faire rire, surtout quand on écrit, parce que quand vous vous relisez, évidemment que les blagues sont moins drôles. C'est drôle comme une blague qu'on raconte à un dîner sur le moment, mais quand vous la connaissez déjà, vous riez évidemment moins. Et donc j'ai toujours essayé de mettre de l'humour parce que j'aime ça, et le sentiment de rire dans un livre est un sentiment toujours très fort et puissant comme lecteur, hein, pour moi. Mais à chaque fois, quand je me relisais dans les autres livres, je coupais beaucoup parce que je me disais, au fond, c'est pas si drôle. Et là, j'ai l'impression que être dans la voix d'une enfant m'a donné cette liberté ou m'a permis d'oser ce pas vers l'humour.
Est-ce que ça a été plus difficile à écrire, ce livre, par rapport aux autres ?
C'était difficile de me faire confiance. C'est-à-dire que quand on est dans un polar pur avec une enquête, on sait de façon très objective que ça fonctionne parce qu'il y a une intrigue, il y a du suspense, que les fils à la fin se touchent et que ça marche bien et que l'enquête marche, donc ça marche. Quand on est dans quelque chose qui est différent, parce que oui, il y a une enquête, mais il y a surtout de l'humour, il y a ces personnages, il y a ces thématiques, on est dans quelque chose de moins contrôlé. Et donc évidemment, pour moi, j'ai dû accepter que j'avais moins la main, au fond, sur le résultat final.
C'est une envie de sortir de votre zone de confort. Vous en avez peut-être un peu marre, entre guillemets, d'écrire ces livres à enquête policière ?
Je crois pas que j'en avais marre, et l'enquête et le livre policier est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et j'y reviendrai, mais c'était vraiment l'envie pour moi, là, de faire quelque chose d'autre, en même temps, complètement dans la lignée de ce que j'ai fait, parce que je crois qu'on retrouve mon style, ma patte, on a envie de tourner les pages, on a une enquête, on a ces personnages, donc on est dans quelque chose qui appartient aux autres livres, mais de différent.
Ça fonctionne très bien, mais il y a quand même aussi, on sent cette envie d'aborder des questions sociétales. Alors, vous auriez pu passer par un essai, hein, mais là, peut-être que c'est un bon moyen détourné, le faire de façon familiale, que d'aborder toutes ces questions très importantes et très polémiques, sans le bruit des réseaux sociaux, le bruit des interviews, ou même des livres en général.
C'est vrai que c'est pour moi, je l'ai compris, alors j'ai pas eu cette idée, ces thématiques au début du livre, je les ai eues une fois que j'ai utilisé cette voix de cette jeune fille, je me suis dit, au fond c'est hyper intéressant parce que les enfants ont toute l'écoute et toute l'attention des adultes, avec cette capacité à dire parfois des choses très vraies, très crues et même brutales, quand ils constatent quelque chose, et les adultes acceptent ça. Et je me suis dit que parler de démocratie, de différence, de l'inclusion, de la responsabilité par la voix d'une enfant, ça faisait quelque chose qui n'était pas un jugement moral, mais au contraire qui aurait, j'espère, l'écoute des plus grands.
Et ça fonctionne, testé et approuvé par toute la